commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Le coming out, un pas vers soi, un pas vers le monde, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+. Et toujours sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli IDFM Radio et Big Bang Station. Big Bang Station, c'est depuis 1997 un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, high-tech, juridique, bien-être, musique, télé, culture pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de coming out. Petit Manu nous retracera l'histoire du coming out.
Exactement, mon cher Didier. Ça, tout ce qu'il faut savoir, vous le savez, mon explication.
Vous ne savez pas.
Eh ben, je vous donnerai une bonne explication. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Avec grand plaisir.
Marie-Christine nous parlera d'outing. Que dit la loi en France ?
L'outing, vous savez ce que c'est ? Non. Alors, rendez-vous tout à l'heure et vous saurez à quoi vous vous exposez.
Quel frein et obstacle pour faire son coming out aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, nous avons dans nos studios Julia Torlet, présidente d'SOS Homophobie. Bonjour.
Bonjour.
Le coming out, une libération intérieure, c'est la chronique de Ponari.
Salut Didier, salut à tous. Le coming out est avant tout un chemin de libération intérieure. Oser être soi, enlever le masque, retrouver cohérence et apaisement. Nous verrons comment ce geste de vérité transforme la relation à soi et aux autres. Et pourquoi il devient une véritable guérison intérieure.
Comment faire son coming out à ses parents ou à ses proches? Pour en parler, nous aurons Anthony Debar, porte-parole de l'association Contact au téléphone. Et pour notre page culture, Kevin nous proposera un quiz des chansons qui évoquent le coming out.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Et oui, parce que le coming out, c'est un sujet qui a été évoqué dans beaucoup de chansons, y compris même quand c'était tabou. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure.
Stani reviendra sur les coming out les plus marquants des séries télé. Enfin, Eric abordera le coming out des super-héros.
Salut Didier et salut tous. Et oui, en effet, aujourd'hui, place au coming out chez nos super-héros. Alors, on continue notre voyage. Je vous ai invité tout au long à découvrir l'univers de Batman. Et bien aujourd'hui, on va se concentrer sur Robin et son coming out.
Oui, parce qu'est-ce que Robin, on s'est posé beaucoup la question, et oui. Était vraiment homo.
On
vous le dira tout à l'heure. Voilà, je vous le dirai dans la première.
On aura la surprise du suspense.
Et l'émission est...
On l'écoute avec grande attention. En plus, avec réflexion. Il a créé l'émission. Il fait l'introduction.
En France, ce n'est qu'en 1982 que l'homosexualité a été complètement dépénalisée et le coming out a gagné en visibilité progressive au fil des décennies. Selon une enquête IFOP de 2021, près de 30% des Français déclarent connaître personnellement une personne LGBTQI+, signe d'une acceptation sociale croissante. À l'échelle mondiale, le chemin est très inégal, alors que plus de 30 pays ont légalisé le mariage homosexuel. Dans environ 70 pays, l'homosexualité reste criminalisée, parfois avec des peines allant jusqu'à la prison ou même la peine de mort. Rendant évidemment le coming out un acte encore très risqué. Aujourd'hui, Petit Manu va retracer cette évolution des origines du terme à la législation actuelle.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Hillary Clinton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux.
Quoi?
Alors, le terme come out vient de l'expression anglaise coming out the closet, littéralement sortir du placard. Eh ouais, sortir du placard, ça, on se libère. T'as très bien dit, Didier, une merveilleuse.
Et ça veut dire quoi?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette image part d'elle-même. Il s'agit de sortir de confidialité, de révéler une partie de soi-même et souvent cachée de peur du rejet ou de la discrimination.
Révéler sa sexualité.
Exactement, c'est-à-dire que en fait, les gens qui disent ça, ils n'ont rien dit, ils cachent parce qu'ils ont peur de la honte.
Ils sortent du placard,
voilà,
ils révèlent
ils quoi.
Alors, leur homosexualité, bisexualité, etc.
Exactement. Oh, et on fait la chronique audio, c'est jamais terminé. Effectivement. Alors, le coming out tel qu'on le connaît commence véritablement au XXe siècle dans un contexte de mouvement pour les droits civils et les libertés individuelles. Dans les années 1950 et 60, la communauté homosexuelle commence à s'organiser. Notamment aux États-Unis et en Europe, le coming out devient un acte politique.
Out,
non, j'exagère.
Coming out.
Out devient un. Non, j'en joue un peu.
Il n'y a pas de H aspiré devant.
Non, mais je sais, je dis ça comme ça pour bien dire le nom. Le coming out devient un acte politique autant que personnel. En révélant son orientation, on refuse le silence imposé à la société et on revendique une existence légitime. Ce fut particulièrement vrai lors des événements comme les émeutes de Stonewall en 1969, souvent considéré comme le point du départ des mouvements de libération LGBT. Et le coming out est aussi un outil de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Transphobie, tout à fait.
Transphobie.
Oh non, transphobie, il faut bien articuler, effectivement. Plus les personnes LGBT sont visibles, plus pour la société obligée de reconnaître leurs droits et leur réalité. C'est en fait que tu as très bien dit l'idée, c'est quand une personne dit son orientation sexuelle, après ça peut étonner la famille, le boulot, les collègues, et c'est plus la honte qu'on soit, l'image, la crainte qu'on a. Et c'est vrai que dans certains pays, par exemple au Maroc, dans les pays du Maghreb, c'est pas toléré. Et comme tu as dit, des fois on peut se retrouver en prison et ça peut se créer.
Voire pire.
En pire. Ou des fois dans les villages, les gens partent parce qu'ils ont honte, ça peut poser des problèmes. Et je crois qu'on arrive à très bien parler avec une image chez moi, magique. Mais t'as très bien dit, alors là. Je pouvais pas mieux résumer.
Merci, petit Manu.
Avec grand plaisir. Vous savez ce que c'est? Je vous ai donné une bonne explication.
En France, près de 30% des personnes LGBTQI+, déclarent ne pas avoir encore fait leur coming out à leur entourage proche, selon une étude IFOP de 2022. Si certains y voient un acte de libération et d'affirmation, d'autres craignent le regard des autres, les discriminations ou les ruptures familiales. Certaines personnes voient leur orientation sexuelle dévoilée par d'autres sans leur accord. Près de 20% des personnes LGBTQI+, en France, déclarent avoir déjà subi cette forme de révélation non consentie, souvent via les réseaux sociaux. Que risquent les personnes qui out en France? Réponse avec Marie-Christine.
Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Alors, le coming out, comme a bien dit petit Manu, c'est un moment intime où une personne choisit de révéler son orientation sexuelle ou son identité de genre. C'est un acte profondément personnel. Pourtant, dans certaines situations, ce choix peut être imposé par autrui. Cette pratique, connue sous le nom d'outing, consiste à divulguer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne sans son consentement. Si ce geste peut sembler anodin pour certains, il comporte des risques juridiques et sociaux. En France, l'outing est considéré comme une atteinte à la vie privée. L'article 226.1 du Code pénal stipule que la divulgation sans consentement d'informations privées est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Cette législation a été renforcée en 2020, notamment en ce qui concerne les atteintes à la vie privée commises par les réseaux sociaux. Une jurisprudence marquante a condamné un individu à verser 10 000 euros de provision pour avoir révélé l'homosexualité de deux ex-compagnons sur Instagram, accompagné de captures d'écran et de photos sans leur consentement. À l'échelle européenne, les lois concernant l'outing varient d'un pays à l'autre. En Allemagne, la pratique est interdite par le droit civil et des sanctions peuvent être appliquées en cas de préjudice. En revanche, dans certains pays, l'outing n'est pas explicitement criminalisé, laissant place à des interprétations. À l'échelle mondiale, les conséquences de l'outing peuvent être dramatiques. Dans 70 pays, l'homosexualité est criminalisée et l'outing peut entraîner des peines de prison, voire la peine de mort. Et même dans les pays où l'homosexualité est légale, l'outing peut exposer des individus à des violences physiques, à la stigmatisation sociale et à des discriminations professionnelles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce sujet.
Eh ben, merci Marie-Christine. En 2025, 48% des salariés LGBT+ affirment avoir fait leur coming out auprès de tous leurs collègues, contre 54% en 2018. Cela montre donc un léger recul ou une stagnation, selon le site bcg.com. Quels freins et obstacles pour faire son coming out aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, nous avons dans le studio Julia Torlet, présidente d'SOS Homophobie. Alors Julia, quels sont les principaux freins du coup aujourd'hui pour faire son coming out ?
Les freins qu'on rencontre aujourd'hui pour faire un coming out, ce sont des freins qui sont surtout de l'ordre des mentalités, dans la mesure où aujourd'hui les personnes LGBTI sont protégées en grande partie par tout un arsenal de lois. En revanche, les risques que l'on prend à faire un coming out sont ceux de... soit dans le monde professionnel, de l'ordre du rejet, de la mise à l'écart, de la moquerie, rejet qu'on peut aussi retrouver dans le contexte familial notamment. Mais donc ce sont toujours ces craintes-là qui alimentent les difficultés à faire un coming out, parce que malheureusement les lois qui existent ne sont pas toujours effectives, et donc il se peut que les personnes LGBTI ne reçoivent pas toujours la protection qu'elles méritent, et c'est ça qui gêne et qui empêche souvent les coming out.
Bon, le chiffre que j'ai donné, il y a moins de personnes qui font leur coming out. C'est peu, mais ça montre quoi alors du coup, que les gens ne le font plus ?
Mais oui, ça montre que aujourd'hui on vit dans un monde dans lequel on nous dit toujours l'homophobie ça n'existe plus, c'est quelque chose qui est derrière nous. C'est loin d'être vrai en réalité, parce que en réalité il y a effectivement toujours des familles qui sont très réfractaires à ce que leur enfant fasse leur coming out, que ce soit un coming out homosexuel, bisexuel, transgenre. Et il y a un peu toujours ce réflexe de aujourd'hui c'est plus un problème pour la société, mais pas chez moi. Pas voilà. Dans ma famille. Il y a toujours ce truc-là. Et côté professionnel, parce que ça aussi, c'est un grand enjeu. Il y a le coming out familial, mais il y a aussi les coming out qu'on peut faire par ailleurs, et notamment ceux dans le monde professionnel qui sont très importants. Il y a quand même toujours cet enjeu avec des entreprises aujourd'hui qui sont de plus en plus engagées dans un travail de fond sur l'inclusion, sur la diversité. Et ça, c'est très bien. Mais concrètement, dans la réalité des entreprises, la plupart des salariés ne se sentent pas libres de dire qui ils ou elles sont, parce qu'il y a toujours cette peur de voir une évolution bloquée, de voir des comportements, alors qui sont pas toujours des comportements ouvertement hostiles, parce qu'on sait très bien qu'il y a cette loi qui protège les personnes LGBTI, mais à défaut d'être complètement hostiles, qui sont des comportements qui peuvent aller de la plaisanterie déplacée à une espèce de rejet. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur, parce que sur son lieu de travail, personne n'a envie de se mettre dans une situation de difficulté ou de mise à l'écart, ce qui est tout à fait compréhensible.
Alors le chiffre que j'ai donné, hein, 48% en 2025 contre 54% en 2018, c'est au travail, justement. Pas dans la sphère familiale, ce qui est un peu étonnant. Pourquoi au travail on aurait plus de difficultés à faire son coming out à l'heure actuelle ?
Dans le monde professionnel, il y a aussi des enjeux de faux arguments qui ne sont pas valables, mais qui sont sans cesse répétés. C'est-à-dire que, et je pense que vous l'avez toutes et tous entendu, peu importe la sphère dans laquelle on évolue, des choses qui consistent à dire « Ah oui, mais ça relève de la vie privée n'a pas sa place au travail. » Ok, mais justement, c'est là qu'il y a un décalage, c'est que faire part de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, c'est pas de la vie privée. La vie privée, ce serait parler de pratiques qui sont intimes, ce serait parler de son intimité. Ça, c'est pas la vie privée. En revanche, les personnes hétéros, par exemple, ne se posent jamais la question du lundi matin à la machine à café, quand on revient du week-end et qu'on dit « Ah bah moi, avec mon mari, j'ai été au cinéma, avec ma femme, j'ai été au marché. » On se pose jamais cette question-là. Pour les gens en face, ça ne semble pas relever de la vie privée, ça semble simplement relever d'échanges un peu informels qu'on peut avoir avec ses collègues. Sauf que les personnes LGBTI, justement, sont dans une autocensure de ces simples discussions-là. Et ça, dans un quotidien professionnel, c'est très lourd à gérer. C'est une espèce d'ultra-vigilance permanente qui rajoute évidemment une charge énorme à la charge normale de travail qu'on peut avoir. Et donc, c'est très très lourd à porter dans un cadre professionnel.
Il y a quand même des cas où tu conseillerais de ne pas faire son coming out ?
Ben, ce n'est pas des cas, c'est plutôt un contexte général. C'est-à-dire que je crois qu'il y a deux choses à rappeler. C'est qu'on parle toujours du coming out, comme si c'était un peu quelque chose de sacralisé. Parce qu'en fait, souvent, quand on parle du coming out, on pense au coming out familial, celui qu'on fait à ses parents. C'est souvent à celui-là qu'on pense. En réalité, c'est la première chose, il n'y a pas un coming out. Il y a des coming out tous les jours. Quand on est une personne LGBTI, on fait son coming out tout le temps, à chaque nouvelle rencontre. peu importe dans quel milieu, on le fait sans arrêt. Et donc, c'est la deuxième chose, c'est que le coming out n'est jamais une chose obligatoire. C'est pas du tout une étape, un passage obligé. Et ça aussi, c'est quelquefois une espèce de pression qu'on peut ressentir quand on est une personne LGBTI, de se dire « Ah bah, il faut que je fasse mon coming out ». Non, le coming out, on le fait quand on veut et si on veut. Et donc, pour répondre à ta question de « Est-ce qu'il y a des cas où il faut pas le faire ?» Oui, quand on se sent pas en sécurité, quand on se sent pas avec des gens en qui on a pleinement confiance, il faut effectivement pas le faire. Quand on sent que c'est plus une mise en vulnérabilité, en danger qu'autre chose, il n'y a aucune obligation à le faire. Il faut vraiment le faire quand on est en sécurité. Mais quoi qu'il en soit, faire un coming out, c'est toujours ce que moi j'appelle un peu le sentiment de saut de la falaise. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas où on va, hein. On y va, mais on ne sait pas comment on va être reçu en face, quelle va être la réaction. Donc vraiment le faire quand on est en confiance, mais pas autrement.
Et pourquoi alors on se sent quand même encore obligé de faire son coming out ?
On se sent encore obligé de faire des coming out et on parle encore de coming out aujourd'hui en 2025 parce que on est dans une société qui travaille de plus en plus, et c'est très bien, sur toutes les questions de déconstruction du genre, déconstruction des normes, déconstruction des attendus sociaux. On y travaille de plus en plus, mais malgré tout, aujourd'hui encore, on vit dans une société qui est très hétéronormée, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle l'hétéronormativité, c'est le fait de présupposer naturellement que tout le monde serait hétéro, que tout le monde serait dans une identité de genre qui lui convient. Sauf que c'est pas le cas, évidemment. Mais comme il y a toujours cette présomption d'hétérosexualité, ben quand on sort de cette hétérosexualité, on est obligé de le dire. Parce que c'est pas encore quelque chose qui relève de la norme.
Mais moi, je vois que le coming out a pas mal évolué, parce que dans le milieu professionnel, maintenant, c'est plus aussi solennel qu'avant, en disant « j'ai quelque chose à vous dire » ou « je suis homosexuel », etc. Souvent, j'ai des collègues hommes qui me disent « ce week-end avec mon copain ».
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est pas du coming out, mais on comprend.
En fait, c'est un coming out, sauf qu'effectivement, et ça c'est, je pense, l'un des marqueurs de l'évolution positive des choses, effectivement, aujourd'hui, il est plus entouré de cette solennité qu'il pouvait y avoir avant et qu'on peut avoir parfois dans la mémoire collective. Aujourd'hui, les coming out qu'on va faire, on les fait pas sous forme d'annonce, on les fait en glissant un indice dans la phrase qui va permettre à l'autre de comprendre. Et c'est aussi, je parlais tout à l'heure de la peur qu'on peut avoir vis-à-vis du coming out, c'est aussi justement ce qui permet un peu de tâter le terrain, c'est-à-dire qu'avant d'en arriver là, souvent on glisse des petits indices, des petites choses, et on voit comment réagissent les personnes d'en face, et en fonction on y va. Mais effectivement, on ne fait plus d'annonces, et ça je pense que c'est un des marqueurs de cette évolution positive.
Et est-ce que tu penses que dans les années à venir, le coming out deviendra quelque chose de banal, qu'autrement dit, il n'y aura plus de coming out ?
Bah ouais, je le souhaite qu'un jour il n'y ait plus de coming out, qu'on puisse parler de sa vie sociale, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit, hein, cette vie sociale, de dire on a un compagnon, une compagne, c'est de la vie sociale, hein, qu'on puisse en parler très naturellement sans qu'il n'y ait pas cette marche du coming out. Je le souhaite, très sincèrement. Je ne suis pas sûre que ça se fasse très vite, mais en tout cas, je souhaite que, effectivement, d'ici plusieurs années, on en arrive là, ce serait super.
Bah merci Julia Torlet, présidente d'SOS Homophobie.
Merci à vous.
Dans une enquête Ipsos, 80% des personnes qui ont reçu un coming out de la part d'un proche disent avoir ressenti des émotions positives. Mais 15% des hommes de moins de 25 ans disent qu'un coming out a eu un impact négatif sur leur relation avec la personne qui l'annonce. Une étude de 2021 montre que seulement 8% des personnes LGBTQI+ en France estiment que faire son coming out au travail est un avantage. En parallèle, 36% considèrent que cela peut constituer un handicap. Le coming out est bien plus qu'une déclaration, c'est un chemin de libération intérieure. Un acte envers soi-même et envers les autres. Ponari nous propose de plonger au cœur de ce moment où l'on ose enfin être soi, sans masque, avec courage et authenticité. Et retrouver la chronique bien-être.
Bah de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est captés sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même ?
Et même des fois on a failli pleurer d'émotion.
La chronique bien-être de Ponari.
Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble sur un sujet profond, intime, mais qui touche à une quête universelle, celle de l'authenticité. Parlons du coming out, ce moment où l'on ose se révéler tel que l'on est, vraiment. C'est un moment de vie où l'on choisit de briser le silence et d'assumer une vérité intérieure. Cela peut être affirmer son identité de genre, que l'on adopte une autre vision de la vie, ou encore que l'on choisit, un chemin spirituel qui nous ressemble. Bref, chaque fois que nous décidons de retirer un masque imposé par la société, par la famille ou même par nous-mêmes. Pendant longtemps, beaucoup vivent dans la retenue, dans la peur d'être rejetés, critiqués, voire exclus. Ce silence peut peser lourd, il crée une tension intérieure constante, une vigilance permanente sur ce que l'on dit, sur ce que l'on montre, comme si on devait surveiller chaque geste, chaque mot. Et cette dissonance entre l'être intérieur et l'image extérieure épuise. Et puis arrive ce moment où l'on ose dire « voilà qui je suis ». Ce geste qui peut paraître simple de l'extérieur est en réalité une révolution intérieure. Car faire son coming out, c'est poser un acte de courage immense, c'est décider que notre vérité mérite d'exister au grand jour, et bien sûr, il serait naïf de penser que tout est facile après. Les réactions de l'entourage peuvent être variées, certaines pleines d'amour et de soutien, d'autres plus douloureuses, teintées d'incompréhension et même de rejet. Et pourtant, malgré ces obstacles, ce pas vers l'authenticité marque souvent le début d'une libération profonde. Les psychologues parlent d'une diminution nette du stress, d'une sensation d'apaisement et parfois même d'un regain d'énergie et de créativité. Pourquoi ? Parce que l'énergie que l'on consacrait jusque-là à cacher, à se protéger, peut enfin être utilisée pour vivre, créer, aimer. En d'autres termes, l'être se réaligne. Le coming out est donc bien plus qu'une simple déclaration, c'est une véritable guérison intérieure. C'est dire au monde, mais surtout à soi-même, je n'ai plus à me justifier. Je mérite d'exister tel que je suis. Et ce message, quand il est prononcé, ne reste pas isolé. Il rayonne, il inspire d'autres personnes à se reconnaître elles aussi, à oser être authentique. Et parfois, il devient un souffle d'espoir pour ceux qui n'osaient pas encore franchir le pas. Alors si vous vous trouvez sur ce chemin, souvenez-vous, il n'existe pas de bon moment ou de bonne manière de faire son coming out. Le seul bon moment, c'est le vôtre. Quand vous vous sentirez prêt, et sachez que même si le chemin peut parfois être semé d'embûches, le trésor au bout du parcours est inestimable. C'est la liberté intérieure, la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on vit, et surtout la possibilité de s'aimer enfin sans condition. Oui, le coming out est un défi, mais c'est surtout un cadeau, celui de l'authenticité et de l'amour de soi.
Merci Ponari.
J'ai remarqué entre ce que je disais et ce que disait Ponari, ça peut être un animateur commun. Avec sa douceur, sa sensibilité, complète ce que j'ai dit aussi, pour connaître. Oh là là.
Plus de 70% des homosexuels déclarent avoir fait leur coming out auprès d'au moins un membre de leur entourage. 8 personnes homosexuelles sur 10 l'ont dit à leur père ou à leur mère. Comment le dire à ses parents ? Pour en parler, nous avons Anthony Debar, porte-parole de l'association Contact au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Comment bien faire son coming out à ses parents ou à ses proches ?
Oula, vaste question. Nous, à l'association Contact, on est une association justement pour aider que ce soit les LGBT+ ou leur entourage à aborder ces sujets-là, parce que c'est souvent, c'est parfois en tout cas, une étape assez complexe pour que chacun puisse se comprendre. Donc, c'est vrai que comment bien faire son coming out, c'est une question qui est assez propre à chacun. Certains, il y a plein de façons de faire son coming out. Hein. Certains veulent l'annoncer en direct, d'autres veulent faire l'écrire dans une lettre, d'autres sur Facebook ou sur. Donc il y a plein de manières possibles pour faire son coming out.
Vous avez des petits conseils à donner à ces personnes qui voudraient faire leur coming out à leurs proches ou à leurs parents ?
Alors,
les préparer ou non ?
Oui, non. Déjà, c'est d'être bien avec soi-même sur ce sujet-là. C'est important d'avoir déjà un petit peu pris du recul sur soi, puisqu'on peut aussi avoir des réactions en face qui ne sont pas celles qu'on attend. Les conseils, c'est toujours d'être soi-même, d'avoir réfléchi un petit peu, de savoir qu'en face, on peut avoir besoin d'un peu de temps pour intégrer cette question-là, parce que parfois, les LGBT+, ont cheminé eux-mêmes avant d'accepter d'être lesbienne, gay, bi ou trans. Et donc, quand on révèle ça à notre entourage, eh bien, parfois, il faut aussi un peu de temps à notre entourage pour digérer la nouvelle. Donc, faut aussi se préparer un petit peu à ça. Ensuite, il y a quand même un point aussi qui est important, c'est de pas prendre de risques aussi. Hein. Il y a, en fonction du contexte, des environnements, si on habite toujours chez ses parents et que le sujet est vraiment très complexe, je sais pas, qu'on peut se retrouver à la rue, par exemple, etc., Bon, ben, il y a des circonstances qui font qu'il faut parfois prendre un certain nombre de précautions. Mais l'idée, c'est toujours d'être sincère, d'avoir les petites brochures de l'association Contact pour faire le service après-vente auprès de son entourage, hein, puisqu'on édite des brochures « Mon enfant est LGBT » et qui permet aussi aux parents et à l'entourage de comprendre un petit peu et de déconstruire un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir là-dessus.
Et pour les parents, alors, quelles paroles ou attitudes peuvent blesser sans qu'ils s'en rendent compte ?
Alors bon, bah, bien sûr, si l'enfant entend des insultes dans la maison homophobes ou transphobes, bon, bah, bien sûr, ça, c'est blessant, mais je pense qu'on s'en rend compte. Il y a beaucoup de choses aussi dont on n'a pas forcément conscience que sont les stéréotypes, donc tout ce qui consiste à généraliser sur le comportement lesbienne, gay, bi ou trans, qui peuvent être blessants. Après, en fonction des cas, le fait de réagir comme si c'était une passade en disant, écoute, bon ben ça va passer, peut-être que tu vas pouvoir re-rentrer dans la norme, comme certains parents souhaitent. Après, il y a aussi d'autres aspects sur la bisexualité, soit homo, soit hétéro, mais pas bi. Et je pense à un dernier point aussi sur concernant la transidentité, le fait de mégenrer son enfant, c'est-à-dire lors d'une transition, hein, quand on est par exemple une fille née dans un corps de garçon ou un garçon né dans un corps de fille, il y a toute une phase où parfois les parents peuvent avoir du mal à genrer correctement leur enfant, donc à adopter le nouveau prénom qu'il ou elle a choisi. Et parfois, ça met du temps pour les parents. C'est quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas conscience, mais c'est quelque chose qui est très difficile parfois pour les personnes trans d'entendre ça. Il peut y avoir beaucoup de maladresse, pas forcément...
Consciente,
mais en tout cas qui peuvent blesser. Ouais.
Alors pour les parents, comment réagir quand ils ne savent pas quoi dire ?
Alors la première chose à faire quand on ne sait pas quoi faire justement sur ces sujets, c'est de venir à l'association Contact, qui est une association nationale, donc il y en a un petit peu partout à travers la France, pour pouvoir justement partager un petit peu son vécu, ses questionnements et essayer de comprendre aussi les personnes LGBT+. Quand on ne sait pas quoi dire, ce qui est important, c'est de montrer qu'on aime son enfant, montrer qu'on aime la personne qui nous fait ce cadeau-là, voir en effet le coming out comme un cadeau et comme un acte d'amour et de sincérité. C'est parce que je veux être sincère avec toi, je ne veux plus te mentir, que j'ai envie de te dire qui je suis vraiment. Et donc, si on arrive à voir ça un petit peu de cette manière-là, même si on a des difficultés, et c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés, c'est important de montrer quand même qu'on aime son enfant. Et ça peut se dire aussi, on peut dire qu'on va avoir besoin de temps pour digérer cette nouvelle-là, parce que ça fait changer un certain nombre peut-être de projections qu'on avait, ça déconstruit un certain nombre de choses. Et que bon, on peut avoir besoin un peu de temps pour digérer. Chose que les LGBT ne comprennent pas forcément. C'est vrai que quand on fait son coming out, on a envie parfois d'être rapidement accepté, d'être reconnu et d'être épaulé. Bon, ça arrive dans certains cas. Dans d'autres cas, ça nécessite un peu plus de temps pour l'entourage.
Vous jouez des fois le rôle, si j'ose dire, entre guillemets, de médiateur à l'association où les parents viennent, les enfants viennent. Et puis, vous êtes entre les deux en train d'essayer parce que le coming out se passe le mieux possible.
Ça peut arriver. Donc, nous, ce qu'on organise sur ces sujets-là, des groupes d'écoute et de parole. Donc, ce sont des moments qui réunissent des LGBT+ et l'entourage des LGBT+. Et parfois, des familles viennent ensemble. Donc, on n'est pas du tout obligé de venir parents plus LGBT+. Et c'est vrai que dans ces réunions-là, parfois, il se passe des choses assez surprenante où chacun se livre, que ce soit les parents ou la personne concernée. Ça permet aussi de se parler quand parfois c'est compliqué de se parler à deux et juste entre nous.
Merci Anthony Debar, porte-parole de l'association Contact.
Merci à vous.
Et nous ouvrons notre page culture pop, musicale et télé. On l'a vu hein, tout au long de l'émission, longtemps resté tabou, le coming out est devenu au fil des décennies un acte culturel majeur. Certains artistes n'ont pas hésité à déclarer leur homosexualité. C'est le cas notamment de George Michael qui a officialisé son homosexualité en 1998. Ricky Martin aussi l'a déclaré publiquement en 2010. En France, la chanteuse Oshi en a parlé dans ses chansons, Amour sans censure et même après Je t'aimerai, tandis que le chanteur Bilal Hassani a transformé son coming out en véritable moteur artistique. Quelles sont les chansons qui évoquent le coming out ? Nous allons les découvrir dans le quiz de...
Kenny !
Et c'est parti pour le quiz !
Non, quiz, 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 quiz ! Comme le cheese !
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Là, je vais porter sur un truc.
Mais sur toi. Sur toi.
Eh bien oui, hein, le coming out est aussi une déclaration en musique, car les chanteurs, effectivement, qu'ils soient homosexuels ou pas, l'ont évoqué à travers leurs chansons. Et c'est le cas notamment de ce chanteur. Est-ce que vous l'avez reconnu ?
Que dira mon père ? J'en ai marre de faire semblant.
Christophe. Alors pas Christophe, mais il a fait partie d'un groupe dans les années 90. À l'époque, il avait les cheveux longs.
Les boys band.
C'était pas un boys band, mais c'était un trio.
Ah, un trio.
Ah oui, je vois.
Alors dans le nom du groupe, il y avait Chards.
Ah oui.
Les Chards, c'est pas.
Moi, j'étais pas né.
C'est pas les Chards.
Les Chards, tout à fait, mais les chanteurs. Alors, le chanteur qui était l'un des leaders du groupe, hein. Mais ça, il s'appelait pas sous le nom qu'on connaît, mais il s'appelait Charlie à l'époque.
Tu parles de boys band, là, on parle de Philippe des Tobey Free.
Ah oui, tout à fait.
Qui soi-disant avait un compagnon, mais lui, ça rejoint la chronique de Marie-Christine. Il a été outé. C'est son compagnon qui a dit qu'il, du coup, il était bisexuel. Après, vrai ou pas, puisque la famille la porte plainte. Alors, pas contre le fait qu'il soit bisexuel ou homosexuel, mais plutôt sur le fait qu'il a été arrouté, en fait.
Ah ouais,
bah, moi, plus généralement qu'on a parlé de sa vie privée.
Ah oui, bah, il n'a pas supporté, quoi. Il n'a pas supporté, ça, j'imagine.
Bah, oui,
pour sa famille.
En tout cas, je ne sais pas si vous avez reconnu ces chanteurs, ils chantent en apesanteur, comme il s'appelle.
Ah, c'est Calogero.
Calogero.
Je crois qu'il travaille même Calogero avec son frère. Il fait de la musique aussi. Calogero aussi.
C'est vrai, il avait les cheveux longs avant.
Ah oui,
c'est
ça,
dans les années 90.
Il a commencé en groupe. Ça y est, c'est vrai, je capite.
Ça rappelle.
Ça revient, voilà.
Il raccroche les wagons, comme on dirait.
Alors là, Didier, je dis rien, mais j'applaudis.
Et oui, Calogero avec cette chanson intitulée « J'ai le droit aussi » dans laquelle il exprime le fait que chacun a le droit de rêver, d'aimer, de se tromper, de vivre à sa façon. Et c'est une chanson qui touche à la quête d'identité et au refus d'être jugé ou limité par le regard des autres. Là, il fait allusion, bien évidemment, à l'homosexualité, le fait que voilà, qu'il faut pas avoir honte d'aimer pour un garçon, faut pas avoir honte d'aimer un homme pour une femme, faut pas avoir honte d'aimer une autre femme. En tout cas, voilà, c'est chacun a le droit d'aimer, quoi.
Mais il y a des enfants maintenant, il y a papa, quand même.
Exactement. On passe maintenant à un autre artiste. Est-ce que vous allez le reconnaître ?
Sors du tas, penses-tu mais pour qui tu te prends ? Je crois que t'es juste insultant. Tiens, pour une fois, reste sans voix. Il rassure-toi.
Il a presque un timbre de voix à la Stromae,
oui.
Mais c'est
oui,
pas.
Oui, c'est ce que je pensais, c'est curieux. Mais
c'est Eddie Depreto.
Voilà,
ah, oui,
Eddie Depreto.
Oui, Eddie Tunu, tout à fait, Eddie Depreto. Oui, ça marche très bien, ça.
Eddie Depreto qui a fait partie des artistes qui a avoir déclaré son homosexualité. Hein,
oui, il disait qu'au niveau de sa famille, ça a été très difficile pour lui. Et maintenant, il chante très bien, mais au niveau de sa famille, c'était un peu tabou. Quoi. On n'en parlait pas. Quoi.
Tout à fait. Et cette chanson, en fait, qui s'intitule Normal, c'est un cri de coming out permanent. Elle affirme la légitimité de vivre son identité, de sortir des carcans sociaux et de ne pas s'excuser d'être différent. C'est une revendication de la liberté d'expression de soi qui fait directement écho à ce que signifie assumer publiquement son orientation sexuelle ou sa singularité. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le. Car je suis con. Sors du tas, penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois que t'es juste insultant. Tiens pour une fois, reste sans voix. Et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas.
Il a vraiment
pas,
un air de Stromae. Ah ouais, façon de chanter.
Ouais,
non mais c'est vrai.
Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars, ne sois qu'un minime détail. Que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon. Faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer fine réaction. Allez tourne-toi dégage. Que je tape le fond. Je suis complètement normal. complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants.
Eh ben oui, comme il le dit, Eddie De Preto, quand on est un homme qui est amoureux d'un homme ou une femme qui est amoureuse d'une autre femme, eh bien on reste normal, quoi, c'est le titre de la chanson.
Mais à mon avis, s'il a dit le refrain, c'est qu'il en a probablement souffert, parce que
oui,
la façon dont il chante, eh bien, parle de la cuillère, et clairement pour en faire un refrain, ça n'est pas évident dans sa vie, j'imagine, tous les jours.
Tout à fait.
On peut l'imaginer.
Exactement. On passe maintenant à une chanteuse.
We've become the death to kin. We've become
Christine.
Oui.
De Christine and the Queen.
Yes, voilà, tout à fait.
Exactly.
Qui s'appelle plus comme ça maintenant, je crois.
Non, ouais, il s'appelle plus comme ça.
Oh. Alors, c'est son nom, j'ai oublié. Du coup, son nouveau nom, c'est. Tu le sais, Eric?
Non, je sais pas du tout.
Petit Manu.
Non, mais alors, j'écoute. Alors, je pivote.
C'est marrant, à chaque fois, Petit Manu, quand on lui dit réponse, il fait ah oui, je savais.
Ah bah non, mais là, je ne vois pas. Donc, comme je ne sais pas, je ne sais pas quoi.
Alors, c'est. Je crois que c'est Redcore.
Ah, bah là, je ne savais pas, j'apprends plus tôt.
Mais là, elle était encore connue sous le nom de Christine and the Queens, avec cette chanson IT, un titre dans laquelle elle évoque la confrontation aux normes de genre et la difficulté quand on sort du cadre attendu. C'est vrai qu'aussi, elle décrit l'expérience intérieure de quelqu'un qui se bat pour faire accepter son identité en dehors des cases traditionnelles. Je vous propose qu'on écoute un extrait. Et oui, hein, Christine and the Queens, qui a changé de nom, hein, qui s'appelle donc Redcore. On termine avec une autre chanteuse française.
Placard, mes sentiments.
Oshi.
Oshi.
Et son vrai prénom, Mathilde.
Oui, j'allais justement te demander.
Passe dans sa poche. Oh là là.
Oshi qui fait partie, comme Eddie De Preto, des artistes à avoir évoqué son coming out. Et puis, cette chanson, elle s'intitule, à votre avis, je l'ai annoncé dans le lancement. T'as une idée, Didier?
Le nom de la chanson, non, je ne me rappelle plus.
C'était dans le lancement. Il y a Amour dedans.
Amour.
Je relis mon lancement.
Censure.
Amour, censure, voilà.
Et puis bah, elle m'a même dit qu'elle a eu des problèmes parce que quand elle est rentrée chez elle, le fait qu'elle a avoué, eh ben, elle s'est fait agresser plusieurs fois.
Hein. Exact.
Elle n'a pas eu de chance. Hein. On ne l'a pas fait de cadeau à aussi. Hein.
Tout
oh,
à fait.
Voilà. On a de sa patte, mais ça n'a pas été évident qu'elle rentre à la maison. Tourner en bas de chez elle et puis il reste tout le monde compte, elle l'a dit. Et...
D'ailleurs, vous savez qu'il y a un spécialiste, enfin un journaliste, chroniqueur qui l'avait critiqué dans une émission de radio il y a quelques années. Je l'ai eu. C'était, alors j'ai pas donné son nom, mais c'était l'un de mes profs à l'USJ Paris. Il avait dit des.
Ah il avait... Oui, même qui travaille. Il a même travaillé avec Patrice Sébastien.
Oui, c'est ça.
Oui, et même on l'interview avec un certain Cyril.
Qu'est-ce qu'il avait dit?
Il avait dit
mais
quoi?
Il avait dit d'Oshi un truc du style. À un animateur radio, il a dit mais vous mettez un poster d'Oshi dans votre chambre, elle est effrayante.
Ah bon? Bah ça a pas dû lui faire plaisir parce qu'on voit qu'elle
c'était
est
en 2021.
Elle a même
je
commencé.
Crois que c'est plus intelligent et subtil que ça.
Bah oui, ça manque de finalisme. Elle a même chanté dans la rue, comme ça, et dans le métro, elle disait. Elle a osé, hein. Puis tu vois, comme quoi. Oui. Voilà.
En tout cas, cette chanson Amour Censure, elle dénonce l'homophobie, la haine et les injonctions qui veulent faire taire ou censurer l'amour entre deux personnes du même sexe. Et ce titre, c'est un hymne de liberté amoureuse et de résistance directement engagée. Et il y a un message qu'elle veut faire passer aussi dans cette chanson, c'est que aimer, ça n'a pas à être censuré et que chacun doit pouvoir vivre son amour au grand jour.
Et mon cher Kevin, je pense à pas mal de chanteurs, hein, en quelle voix aiguë, Freddie Mercury, ou une dose, il disait qu'il avait du mal à libérer. Il y a aussi, on pense à comment il s'appelle, Michel Sardou, il parle à être amoureux d'un homme aussi, une femme avec une femme, Yann Tell. Et il y avait aussi, je sais pas si vous connaissez, Sabrina et Samantha Fox, qui avaient chanté une chose, qui avaient pris une chanson de, non, ils avaient même fait un bisou sur scène dans les années, oh oui, ils chantent ensemble, oh là là, t'as la vie d'être complice, ça va.
Moi qui suis d'une génération avant, il y avait Aznavour.
Ah oui, c'est vrai.
Qui a été l'un des premiers à l'avoir évoqué.
Ah bah exactement, Charles Aznavour, arménien, exactement quoi. Et,
bah, il n'était pas homosexuel, mais il avait fait une super chanson.
Tout à fait, une chanson pour les homosexuels, carrément.
Eh bien c'est tout pour moi, merci à tous.
Eh bien merci Kevin. On continue à parler de coming out sur IDFM Radio jusqu'à 22h avec l'angle série télé. Thématique régulièrement explorée sur les écrans, dans les séries comme dans les films, le coming out intervient généralement entre l'adolescence et le début de la vie adulte. Le coming out, ou plutôt les coming out, car il y a peut-être autant de façons de faire que de personnes, est abordé avec délicatesse et parfois avec humour notamment. Dans Moonlight en 2016, Oscar du meilleur film en 2017, portrait d'un jeune afro-américain homosexuel à trois périodes importantes de sa vie, alors qu'il lutte pour sa survie dans le Miami des classes populaires. Dans Love, Simon en 2018, un des premiers longs métrages produits par une major du cinéma américain et donc destiné à un très large public, à faire de la question du coming out d'adolescent le thème principal d'un film. Ou encore Ma belle famille, Noël et moi en 2020, une comédie romantique de Noël donc, dans laquelle un couple de lesbiennes fiancées interprété par Kristen Stewart et Mackenzie Davis va passer les fêtes de fin d'année chez les parents de cette dernière alors qu'elle ne leur a toujours pas révélé son homosexualité et ne semble toujours pas prête à le faire, avec toute la pression que cela représente. Du côté des séries, autant de situations variées, mais alors quels sont les coming out les plus marquants et pourquoi ? Stani nous en dit plus dans sa chronique.
Comment est abordé le thème de l'émission sur le petit écran ?
Je vous dis à plus les séries-vores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Enquête de Stani.
Ah, notre Stéphie, elle est jolie. D'où tu viens ?
C'est Stani.
Stani, on t'encourage. Stéphie, Stani, Stéphanie, qui est si jolie.
Vous le savez à force, les fictions jouent souvent un rôle majeur dans la représentation et l'acceptation de nombreuses situations, causes et ou minorités. Et l'homosexualité et le coming out n'y échappent pas. Au contraire, dans ce domaine, bon nombre de personnages de séries notamment, et particulièrement de teen séries, ont souvent ouvert la voie et permis essentiellement à un public ado en quête de repères de s'identifier. Parmi les coming out les plus marquants, on trouve, attention spoiler, mais en même temps, si vous n'avez pas encore vu ces séries pas vraiment récentes, il serait temps. Dans une des teen séries cultes de la fin des années 90, Dawson, le coming out de Jack McPhee interprété par Kerr Smith dans la saison 2. 6 saisons, 128 épisodes de 45 minutes entre 1998 et 2003 sur The WB, en France dès 1999 sur les chaînes du groupe TF1 puis sur celles du groupe M6 et actuellement dispo sur Prime. La série qui porte le nom de son personnage principal nous plonge dans le quotidien de 4 adolescents dans la petite ville paisible de Capside. Dawson Leary, donc joué par James Vanderbeck, ses deux amis d'enfance, Josephine Potter alias Joey et Pacey Witter, respectivement interprétés par Katie Holmes et Joshua Jackson, et la belle et délurée Jennifer Lindley, tout droit débarquée de New York, incarnée par Michelle Williams. La bande de jeunes se retrouve alors confrontée aux problèmes typiques de leur âge, enfin qu'ils ne font plutôt que commencer à leur âge. Amour, amitié, rivalité, jalousie, sexualité. Mais si le feuilleton a marqué les esprits et est devenu une référence pour toute une génération, dont je fais partie, c'est en plus d'avoir révélé des acteurs devenus aujourd'hui très célèbres, grâce à des personnages et des intrigues avant-gardistes pour l'époque, abordant de vrais thèmes de société, drogue, mais aussi racisme, maladie, mort ou encore homosexualité, homophobie et coming out. À partir de la saison 2, le personnage de Jack McPhee intègre la série. S'il sort d'abord avec Joey, dans les épisodes 14 et 15, il révèle pourtant son homosexualité. Le jeune homme est d'abord victime de outing, contraint par son professeur de lire son poème exprimant son attirance pour un autre garçon devant toute la classe. Une scène particulièrement bouleversante de la série, inspirée d'une histoire vraie. Jack fait ensuite son coming out auprès de ses amis et de son père. Son personnage est d'ailleurs aussi à l'origine du premier baiser passionné entre deux hommes dans une série à l'époque diffusée en prime time. Un autre coming out marquant dans une autre teen série culte façon comédie musicale, cette fois Glee, ou plutôt des coming out marquants parce qu'ils sont plusieurs à le faire dans cette série qui compte pas moins de 10 personnages LGBT en tout genre. D'abord le coming out de Kurt Hummel, joué par Chris Colfer, le chanteur efféminé virtuose à la voix d'ange dès la première saison, puis celui de la pop-home girl Latina Santana Lopez, incarnée par la regrettée Naya Rivera dans la saison 3. 6 saisons, 121 épisodes de 45 minutes entre 2009 et 2015 sur le réseau Fox, en France sur les chaînes du groupe M6 dès 2011 et actuellement dispo sur Disney+. Le pitch, un prof d'espagnol au sein du lycée William McKinley High School à Lima dans l'Ohio prend la direction de la chorale de son établissement, le Glee Club, et tente de transformer ses membres en stars du chant, en partant de très loin. Mais son enthousiasme débordant et à toute épreuve et la composition d'un nouveau groupe pour le moins hétéroclite, mais non son personnalité, footballeur, pop-up girl, intello, personne handicapée ou encore LGBT, paye. Des élèves les plus populaires aux parias en passant par les minorités marginales, tout ce petit monde cohabite tant bien que mal pour tenter de ramener le Glee Club au prestigieux niveau de ses anciennes heures de gloire. Parmi ce groupe de lycéens aussi talentueux qu'ambitieux, Kurt Hummel est le premier à être gay parmi les personnages principaux dans la série. Si au départ, bien que cela soit assez évident, il ne l'assume pas très bien, il fait un coming out des plus touchants dès le troisième épisode de la première saison. Il forme ensuite avec son partenaire Blaine Anderson, l'un des couples gays emblématiques du petit écran, d'ailleurs évoqué dans l'émission Big Bang Station consacrée à l'homophobie. C'est ensuite au tour de Santana Lopez. Si au départ, la pop-up girl garce de service enchaîne les conquêtes masculines, sa relation particulière avec sa meilleure amie et consœur pop-up girl Brittany va l'amener à se poser des questions dans la saison 2. Et c'est au cours de l'épisode 7 de la troisième saison intitulée « Une fille avec une fille » sur fond entre autres de la chanson « I Kissed a Girl » de Katy Perry qu'elle ose enfin dévoiler au monde et notamment à sa famille qu'elle est lesbienne. Si ses amis accueillent la nouvelle avec bienveillance, ce n'est pas le cas de sa grand-mère très croyante qui la rejette brutalement. Une situation difficile qui n'empêchera pourtant pas la jeune femme au caractère affirmé de vivre avec Brittany une magnifique histoire qui les mènera jusqu'au mariage. Voilà pour les coming out parmi les plus marquants. Il y en a d'autres bien sûr et heureusement, notamment dans des séries plus récentes comme Heartstopper entre 2022 et 2024 sur Netflix. Disons simplement que ceux-là ont particulièrement compté car ils ont été précurseurs et ont ouvert la voie. Sur ce, je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Merci Stani. On termine cette émission par de la culture
pop.
Ou POP.
Exactement, pour bien préciser.
Comme l'indique le documentaire tellement gay de Maxime Danzel, la culture gay underground a fait son coming out en investissant le cinéma, la musique et la littérature depuis pas mal de temps maintenant. Le coming out est aussi présent dans les comics, avec par exemple la BD Son of Kal-El, qui n'est autre que le fils de...
Petit Superman. Manu.
Ah, je ne vois pas de...
Bonnard, il a dit.
Super...
Super.
En retard. Sourd.
Super.
Superman.
Superman.
Ah oui, Superman.
Affichant son amour pour un reporter, ou encore Robin, l'acolyte de Batman qui accepte un rendez-vous galant auprès d'un très beau jeune homme. Eric revient sur le coming out de ses super-héros haut en couleur. Retrouvez la nouvelle chronique d'Eric.
Ah, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique autour de la culture pop.
Une culture pop. Jets. Pop. Pop, boum, 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 boum.
L'arrivée de nouvelles figurines pop, plus connues sous le nom de Funko Pop. Vous savez ces figurines en vinyle avec une grosse tête et un petit corps?
Il va nous aider, Eric. Oh là 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 là.
Il y a 28 ans, sortaient dans les salles obscures Batman et Robin avec George Clooney dans la peau du justicier et Arnold Schwarzenegger dans la peau du vilain. Vous l'avez vu ce film ?
Il y a longtemps.
Non, mais il y avait la série, j'ai même mis les onomatopées. N'écoute pas, on peut dire les billes.
Alors là, il s'agit du film donc réalisé par Joel Schumacher et considéré comme un nanar par certains. Ce film suscite autant de bonnes que de mauvaises critiques, mais aussi certaines observations quant à la sexualité de Batman et Robin. C'était effectivement la première fois que l'on voyait à l'écran des costumes dignes de statues de dieux grecs tels Apollon. Entre le plan rapide mais sensuel de l'entrejambe de Bruce Wayne enfilant son costume et les tétons moulants des costumes, il y avait peut-être une seconde lecture. Nos super-héros faisaient-ils leur coming out ou est-ce simplement un parti pris esthétique ? Le réalisateur réalisateur s'est joué de la question qui lui a été posée une vingtaine d'années plus tard, mais c'est un signe que les mœurs ont évolué. Évolué aussi car dans les comics depuis 2020, certains super-héros font leur coming out. C'est le cas par exemple de Robin, l'acolyte de Batman. Alors, le personnage de Tim Drake, alias Robin, troisième du nom, hein, vous saviez qu'il y a eu trois Robin. Oui. Donc il y a eu le premier Dick Grayson qui est devenu Nightwing, le second Jason Todd qui est devenu Red Hood. Eh bien lui, c'est un très bon exemple, donc Tim Drake, en matière de diversité, puisqu'il représente un personnage où l'ambiguïté de l'orientation sexuelle s'est toujours posée. Après avoir eu des amourettes avec le sexe opposé, il accepte un rendez-vous galant auprès de Bernard Todd, un vieil ami et ancien camarade de classe de Tim Drake. Leur attirance commune ont dépassé le premier date. On dit un date, hein, c'est ça, hein ?
C'est ça, bah oui.
Un date.
Tim Manu, il a des dates.
La chance.
Non. Pour le moment, j'écoute. Ah, mais je dis rien. On t'écoute avec
Tu m'as dit, j'ai des. Ou alors, tu parlais de dates que tu mangeais. Mais...
Non, non. Ça, c'est l'imagination.
Je suis peut-être trompé.
De Didier, qui a une traîne.
T'as des dates.
Excellent. Te laisse pas déconcentrer. Fais comme tu dois rien faire. Continue, mon tour.
Fais comme si Didier n'était pas là.
Ouais. Excuse-moi. Mais il traite à tête. Non, ouais. Je vais pas laisser déconcentrer. Pour une fois, je me taisais. On écoutait, il y avait pas ça. Voilà. C'est bien rare. Mais excuse-moi, Didier. Là, on écoute
avec attention,
voilà. Parce qu'il se taquine, voilà.
Mais ça marche pas.
Voilà, ça marche pas. Reprends. Voilà. Et en plus, elle s'est donné un corps. Continue ainsi. On écoute avec grande attention. C'est très important.
Donc, leur attirance commune ont dépassé le premier date et cela fait de leur relation un coming out auprès des lecteurs de Batman et Robin. Robin, l'acolyte de Batman, est donc bisexuel. Ce coming out est à retrouver dans le tome 6 de la collection Batman Urban Legend. C'est une décision artistique prise au sérieux chez les éditeurs DC Comics, hein, car comme on le sait, hein, les comics sont le mémoire de notre société, mais certains diront que c'est pour faire comme leur concurrent Marvel, qui avait commencé à évoquer le coming out avant eux. On pense bien entendu au comics Astonishing X-Men numéro 51, où le super-héros Vega se marie avec son compagnon. C'était pas forcément un coming out, mais bel et bien la première représentation d'un mariage du même sexe dans les bandes dessinées grand public. C'est pour ça qu'en fait, les comics sont vraiment des avant-gardes sur ce qu'est la société aujourd'hui. Donc les éditions DC Comics ne sont pas leur premier coming out. Hein. On peut compter dans l'univers de Batman, Kate Kane, qui est Batwoman, une des héroïnes les plus connues, car en 2006, elle est devenue la première lesbienne à avoir sa propre série régulière chez DC. Il y a aussi la relation entre Poison Ivy et Harley Quinn, hein, représentant des personnages queer. DC compte parmi ses collections une série de comics qui se nomme Son of Kal-El. Donc on disait c'était le... Manu, il est très au fait, hein, de ce que je raconte, hein, depuis tout à l'heure.
Tu l'as pris en dépourvu, là.
Je ne fais rien dire, parce qu'après, on va se moquer de moi, hein.
Son of Kel, alors, écoute
donc,
bien.
J'écoute bien, donc là, je préfère rien dire. Là, je regarde.
Le fils, le fils de...
Le fils de quoi, en fait?
Super.
Ah, le fils de Superman.
Voilà, exactement.
Merci. Elle est vraiment super, je l'aime bien, hein, Bonnard. Oh là là, t'as pas de... Voilà, on fait ça en duo, quoi, en complicité.
Je contextualise un petit peu, donc le fils de Kal-El qu'on voit dans les comics, hein, il est jeune, il représente les adolescents classiques, hein, qu'on peut retrouver de nos jours, bien qu'américanisé, mais c'est normal parce que Superman est américain. On retrouve le jeune homme dans un monde actuel avec les questions d'environnement, d'immigration et de clampoutisme. Ces thèmes-là mettent en scène un homme, le fils de Superman, avec les questions de représentation comme celle de l'orientation sexuelle du super-héros. L'auteur Tom Taylor a créé un personnage masculin bisexuel qui n'est autre que Jonathan Kent, le fils de Clark Kent, alias Superman et Lois Lane. L'auteur a d'ailleurs déclaré à ce sujet: cela a été incroyable de voir toutes les réactions positives des fans et je tenais à remercier tous ceux qui ont contacté DC, notre équipe créative, pour montrer leur soutien. J'ai reçu des messages de parents, de jeunes LGBTQ+.
QI plus, pardon. Manque une lettre.
C'est important.
C'est important, petit Manu, vas-y, redis les lettres.
Non, je préfère pas, mais c'est une abréviation pour te dire quoi.
Manu, L.
Non, LGBT, ça je le dis pas. Et ce que t'as dit, c'est une abréviation qu'il faut quand même respecter.
QI plus.
Ah, voilà, même Marie-Christine le sait.
Voilà.
Bah, ça veut dire l'intelligence.
Ah, bah oui, voilà. Vous avez bien compris. Mais non, pour une fois, je me disais, c'est intéressant, j'écoute. J'apprends beaucoup avec Thierry. Oulala. Une bonne sorte de...
Alors, il y a beaucoup de parents, justement, de jeunes concernés qui ont dit à quel point c'était important pour leur famille. J'ai entendu des personnes qui ont lu la nouvelle et qui ont fait leur coming out à leur famille, à leurs amis le jour même. Et pas seulement des jeunes, des trentenaires, des quatre-vingts. Voilà les quelques mots de l'auteur. Sur ce, amis de la pop culture, je vous laisse avec les super-héros et vous retrouve dans ma prochaine chronique pop avec d'autres aventures pop. Portez-vous bien.
Et Ray, je peux dire quelque chose quand même, parce que quand même, c'est aussi à la télévision, il y a aussi beaucoup d'animateurs qui ont fait le coming out. Quant à Kevin, il y a une chose...
Ouais, les animateurs, il y a eu notamment Olivier Mine, il y a quelques
quelques années.
Oui,
tu penses à d'autres animateurs
oui,
aussi.
Oui, je pense aussi, il avait dit qu'il présentait son émission, Frédéric Lopez, il avait dit une fois, il avait dit, ah, j'ai fait mon coming out comme ça aussi. Ouais. Et aussi, il y a notre chanteur qui, je pense, Dave, l'homme de papa, de, pour la fille de Marc-Olivier Fogel, il avait fait une chanson, l'homme de papa, et c'était à son parrain, une très jolie chanson de Dave aussi, voilà.
Eh ben merci Eric. Et on repart en musique, Kevin, avant de se quitter.
Et je vous propose d'écouter Oshi, Amour Censure.
On peut dire que le clip est très beau, et on l'a pété de ma morte. Oulala.
Exactement.
Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant. Être à part, un peu penchant, au bout du navire. Je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Travestir qui je suis vraiment. Faire taire la rumeur. Les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur. On souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Je pense à en finir. Beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire. Je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que d'amour sincère.
Les enfants, c'est pour un homme et une femme.
Il n'y a pas d'amour sans sûr.
Ce n'est absolument pas pour des homosexuels.
Il n'y a que d'amour sincère.
Ils ont plus de guerre à tenir. Des questions sur eux-mêmes, ça se propage en fait comme les maladies qui se propagent.
Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après?
Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
Oshi, amour censure.
Et cette émission sur le coming out c'est déjà fini.
Oh, oh non.
Vous avez loupé le début de l'émission, vous voulez la réécouter. L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste non exhaustive sur
bigbangstation.fr.
On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite un propos de l'animateur Olivier Mine qui avait déclaré il y a une dizaine d'années qu'il était hétéro-homo. C'était en allusion à un coming out qu'il avait fait. Il est revenu sur ça il y a quelques années dans une interview accordée à Télé Loisirs. Il avait déclaré ceci. La question m'a été posée pour la première fois et je ne voulais vraiment pas répondre. Cela ne vous regarde pas. Ça pouvait justement induire l'idée que je considérais cela comme honteux. Ce n'était pas un aveu. Du coup, j'ai inventé pour l'occasion une expression qui définissait qui j'étais vraiment et qui j'avais pu être.
Salut à toutes et à tous, la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème.
Alors ça thème vraiment qu'on va apprendre, je pense, c'est le deuil
périnatal.
Donc c'est un thème, on va apprendre. Et on te remercie d'avance, Didier, hein. Voilà, préparez-vous à cette émission-là.
Salut à toutes et à tous.
Salut, prenez soin de vous.
Ok, let's go.
stop.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur IDFM98.fr.
IDFM Radio vous invite à sa Halloween Party vendredi 31 octobre de 18h30 à 23h. Rendez-vous à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains avec vos plus beaux déguisements pour une soirée dansante endiablée. Sur scène, les artistes Clara Viola et le groupe Slow Rock. Distribution de bonbons, DJ, tombola, diseuse de bonne aventure, les contes qui font peur et bien d'autres surprises. 7€ l'entrée sur place et 5€ via Hello Asso. Gratuit pour les mineurs, accompagné d'un adulte. Halloween Party, vendredi 31 octobre, à partir de 18h30 avec IDFM Radio à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains.
Discrimination. Ouvrons les yeux, changeons les regards. Jeudi 9 octobre, à 12h30, la mission locale Vallée de Montmorency vous accueille à l'espace André Malraux d'Herblay-sur-Seine
pour une expo photo inédite.
Des portraits de jeunes, des entreprises engagées, des histoires vraies qui interpellent.
Un cocktail déjeunatoire pour échanger, débattre, s'inspirer.
Ne manquez pas ce rendez-vous fort en émotions et en rencontres. Jeudi 9 octobre, 12h30, espace André Malraux à Herblay-sur-Seine.
Parce que lutter contre les discriminations,
ça commence par ouvrir les yeux.